Je suis très heureux de vous retrouver sur la Nouvelle Génération. Merci de nous choisir et merci de faire toujours confiance à la 93.5. Nous sommes au mercredi 9 octobre 2024. Il sont 11h sur votre radio. Et vous comprenez que nous démarrons l'émission Club de la Presse ainsi. Et c'est le troisième numéro pour le compte alors de cette semaine. Bienvenue au club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Thomas était aussi d'ATV assure la mise en onde. Jérôme Dakouta était à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou au micro. Salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Nekro, Radio La Paix à Atakpamé, Centrale FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Vous avez ce privilège de nous suivre aussi partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Mais n'oubliez pas, vous pouvez nous suivre aussi sur nos radios partenaires en ligne, notamment Ibn Radio et Radio Le Bénin. Club de la Presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio, avec moi, confrère journaliste Abassi Saka, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio canadienne.
C'est toujours commandant.
Ah, c'est toujours commandant.
Hein. D'accord, ça n'a pas changé.
On attend l'évolution.
Ça n'a pas changé de grade. Basile Mignaké, bonjour.
Bonjour Pascal et bonjour à nos fidèles auditeurs et auditrices de la nouvelle génération.
J'espère que tu vas bien.
Non, je suis très heureux aussi de te savoir bien portant.
Merci beaucoup. Et ça me fait tellement plaisir aussi de te retrouver en bonne santé et de savoir que vraiment tu es avec nous déjà pour cette émission Club de la Presse. Et vous savez très bien que déjà chaque mercredi, nous parlons santé et c'est la chronique santé. C'est pour cela même d'ailleurs que vous êtes là. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci Pascal, vous savez, c'est pour nous une pression, une routine d'apporter la belle information, la bonne information surtout à nos fidèles auditeurs et auditrices. Et puis à nos lecteurs aussi, bien évidemment, que ce soit au Togo et partout ailleurs dans le monde.
Tout à fait, puisqu'ils sont tellement nombreux à nous suivre au Togo à travers nos radios partenaires qui couvrent même d'ailleurs tout le Togo avec cette émission, puisque pratiquement dans chaque région, nous avons nos radios partenaires qui relaient cette émission et ça fait toujours plaisir. Et également au-delà de nos frontières, c'est-à-dire extérieures.
Grâce à la magie de l'Internet,
tout à fait.
Tout ce que nous disons est partagé par le monde entier.
Voilà.
Et donc c'est une magie extraordinaire qui nous permet, nous, d'ailleurs, de diffuser nos productions. Vous savez, on ira en détail. L'OMS aussi s'est allié aujourd'hui avec TikTok pour mener cette bataille-là que nous menons au quotidien.
Tout à fait. Nous allons en parler dans quelques instants. Mais bien avant, permettez quand même que je souhaite la bienvenue à la seule dame parmi nous. C'est Estelle Koudzonou. Estelle, bonjour.
Bonjour Pascal. Bonjour aux confrères sur le plateau. Bonjour aux techniciens. Je n'oublie pas les auditeurs et auditrices de Canal FM.
J'espère que toi-même, tu vas bien.
Ça va.
Ça va. C'est l'essentiel. D'accord. Alors, parlons justement alors de santé, puisque nous sommes aujourd'hui, mercredi. Et donc, nous allons parler santé avec Santé Éducation. Santé Éducation est dans les kiosques ce matin. Vous titrez à la une, hein, Basile, vous titrez à la une alors de votre journal Spiruline traitée hypertension. Et c'est pour dire que, alors, on peut traiter maintenant alors l'hypertension avec la spiruline, c'est ça?
Oui, oui, toutes mes excuses. Oui, Pascal, vous savez que toute maladie qui nous maintient, qui porte préjudice à notre santé, est irréversible. Irréversible. Et c'est là que je dirais que si on est dans le délit, on subit, mais si on est dans l'acceptation, on trouve des issues pour s'affranchir. Et donc, Santé Éducation, par son devoir d'éduquer, d'apporter la bonne information à nos populations pour la prise en charge de leurs pathologies, et bien évidemment aussi avec le soutien du corps médical, parce que ce que nous disons vient en appui, vient en complément de ce qui se fait médicalement, d'où il y a cette nécessité d'attirer l'attention à nos lecteurs, à ceux qui nous écoutent, que l'accompagnement du corps médical, du médecin ou bien de l'infirmier, pour ceux qui sont dans les hameaux les plus reculés parce qu'ils n'ont pas accès à un médecin, et que l'information que nous donnons doivent les permettre de bien supporter et de traiter leur pathologie. Et donc, concernant la spiruline, c'est une micro-algue hein, très, très, très importante et qui a des nutriments qui peuvent hein, permettre à l'organisme de s'équilibrer. Dans cette logique de prévention, nous avons des maladies cardiaques telles que l'infarctus, l'athérosclérose et des accidents cardiovasculaires qui sont récurrents maintenant dans nos communautés et dans nos formations sanitaires. Vous savez que tous les lits aujourd'hui, tous les lits sont presque occupés par ceux qui ont vraiment, ceux qui font les crises cardiaques. Et donc, on a vu que l'apport de cet aliment plutôt, est décisif dans l'accompagnement et dans le traitement des maladies comme l'hypertension. Parce que aujourd'hui, sur le plan national, nous dépassons maintenant les 31%. Et c'est grave, c'est une bombe nucléaire qui s'abat sur le Togo. Qu'on ne voit pas. Parce qu'aujourd'hui, chaque jour que Dieu nous donne, les gens, par leur alimentation, d'une manière ignorante, contribuent à apporter un coup sur leur santé. Et quelqu'un qui développe une hypertension actuelle a commencé, peut-être ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Et la personne ignore toutes les informations de sensibilisation. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ça. Nous venons par cet aliment pour dire à nos populations, nous, de priser aussi cet aliment. Parce que c'est écrit dans un style ambilique. Nous, à Santé Éducation, on essaie de cuire ça d'une manière simple pour que ça soit digeste à nos populations,
tout à fait.
À ceux qui nous écoutent.
Tout à fait. Alors, Basile, vous vous intéressez aussi à un autre sujet, vous l'avez évoqué tout de suite, c'est concernant surtout la désinformation sur la santé, et vous écrivez cet article que je trouve aussi très intéressant, vous écrivez OMS et TikTok contre la désinformation sur la santé.
Oui, aujourd'hui, les réseaux sociaux constituent des canaux d'information très importants. On nous dit, ou bien d'après les études, un adulte sur quatre est sur un réseau social. Donc c'est une aubaine pour l'OMS de dire que elle doit, parce que c'est elle qui régit, c'est elle qui détermine les grandes lignes de la santé mondiale. Donc on a vu que le TikTok, là, c'est un canal très important pour diffuser la bonne information. Nous savons que sur les réseaux sociaux, il y a la bonne information et la mauvaise information.
Et c'est à nous de faire la part.
C'est à nous de faire la part. Et donc l'OMS s'allie maintenant à ces influenceurs qui ont de crédibilité, qui eux-mêmes d'abord sont de bons exemples et de passer par ce canal-là pour apporter l'information. Et ce, ouais. Donc, c'est un canal que les professionnels même disent qu'il faut. Parce qu'avec l'image, parce que ça a un impact. Ça impacte rapidement les populations en image et puis en son. Je pense que ça passe vite. Quoi.
Et ça passe vite, puisque beaucoup de personnes se retrouvent aujourd'hui sur réseau social. Oui. Et je veux bien parler alors de TikTok. Et on sait qu'il y a beaucoup de choses sur TikTok qui, bien sûr, qui circulent alors sur TikTok. L'essentiel pour ce qui concerne les informations en matière de santé, c'est de savoir faire la part de ces informations pour qu'on sache avoir la bonne information.
Oui, aujourd'hui, tout le monde s'improvise en journaliste. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous avez des coachs, des experts de tout genre.
On parle plus des journalistes citoyens.
Voilà. Donc, il faut rentrer dedans, il faut que l'OMS rentre dedans pour mettre un peu de l'ordre et pour donner certaine crédibilité à ceux qui sont des professionnels et qui peuvent donner l'information pour qu'il n'y ait pas de doute et plus que ça nous porte des préjudices sur notre santé.
Mmh. Alors, Basile, vous vous intéressez aussi au nouveau directeur de l'INAM. On sait que l'INAM, c'est justement cette institution, a un nouveau directeur. Et vous écrivez également quelque chose alors sur ce nouveau directeur.
Oui, oui, on a, c'est sur notre site internet. Je pense que la passation a été faite le lundi par passé, avant-hier. Je profite de l'occasion pour remercier Madame Myriam de Souza d'Almeida. Je le dis aujourd'hui, elle n'est pas à la tête de l'institution. Pour vous dire que c'est une dame que nous appelons grand-sœur, hein, affectueusement. Et c'est une grande communicatrice. Vous voyez, c'est ça qui fait la différence. Lorsque vous l'appelez, lorsque vous voulez la voir, c'est pas pour te régler un problème, hein, bon de sens ou bien nous à santé éducation ne fait pas ça.
Mais non, c'est pour chercher des
lorsque
informations.
Nous allons vers elle, c'est ça quoi.
C'est accessible.
Et surtout, je dirais que elle nous a appelé, elle nous a fait appel en tant que professionnel dans le domaine de l'aider en matière d'information, parce que elle a cru en nous, que nous pourrions apporter quelque chose. Et je voudrais, dans le sens que celui-là qui vient aussi, je l'ai une fois rencontré, on a discuté lorsqu'il était à la Caisse nationale de sécurité.
Il n'est pas nouveau aussi.
Il n'est pas nouveau.
Parce qu'au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est lui qui s'occupe du département.
Tout à fait.
Voilà,
de l'assurance maladie. Nous disons que pour le vision, il faut un bon management. C'est-à-dire que comment répartir les tâches, comment avoir confiance à tes collaborateurs, c'est ça. Et Madame de Souza d'Almeida avait cette capacité de mobiliser, hein, et d'aller, parce que vous venez de savoir que c'est elle qui a commencé la mise en œuvre,
oui,
et ça a été
de l'assurance maladie.
Mais étant une femme, je pense qu'elle a relevé des défis. Aujourd'hui, le nouveau qui est là, je pense que doit s'inspirer de ce qu'elle a fait et puis d'apporter un nouveau souffle à ça, parce que l'essentiel est de faire quoi? L'essentiel est que les malades soit prise en charge efficacement sur un bon nombre de pathologies. Et c'est de ça il s'agit. Et en mettant l'information en amont. Aujourd'hui, le système s'écroule parce que les pathologies sont là. Je dis, les pathologies sont là. Nous parlons de Octobre Rose. Octobre Rose, si on vous dit, si je vous envoie en podcast les témoignages des femmes, vous n'allez pas croire. Parce que c'est l'hécatombe. On dit aux femmes d'aller faire le dépistage, d'aller faire tout ça. Mais ça a un coût. Ça a un coût. Mais nous disons que très tôt, on se lève sur ces maladies. Moi, c'est onéreux. Mais nous sommes dans la prise en charge de cette pathologie. Ça déstabilise les foyers. Et ça déstabilise le foyer et c'est difficile aussi.
D'accord, c'est difficile aussi. Alors, Basile, pour avoir votre journal santé éducation, et aujourd'hui, quelles sont les conditions? Et aussi, si on veut vous contacter, quels sont les numéros?
Non, Pascal, comme d'habitude, nous sommes sur l'Internet. Aujourd'hui, on peut nous télécharger sur l'Internet. Vous connaissez la magie de l'Internet.
Tout à fait.
Parce qu'on se déplace avec l'archive. Hein, à tout moment, on peut être connecté, on peut lire le journal, et c'est extraordinaire. Mais nous conseillons plus nos fidèles auditeurs et puis auditrices, et puis de ceux qui nous lisent, d'aller sur notre plateforme et d'acheter. Si vous achetez ça, c'est pour toute votre vie. Hein, vous l'avez pour toute votre vie. Et si vous abonnez, ça, vous croyez que c'est immensément les parutions antérieures ou même vous l'avez. Hein, donc, c'est un avantage. Mais pour nous rejoindre, c'est le 96 14 97 97 ou le 91 79 47 07.
D'accord.
Donc, je pense que tout le monde est servi. Nous devons, l'information que je dois passer aujourd'hui,
oui,
passera, c'est que cette bataille doit être menée individuellement. Parce que vous là-bas, moi aussi, ceux qui nous écoutent, ont le pouvoir sur leur maladie. Hein? Soit de se laisser traîner par la maladie, parce qu'un corps qui s'équilibre avec une alimentation équilibrée, les spécialistes disent qu'on peut aller jusqu'à au-delà de 100. Mais aujourd'hui, force est de constater que ne faisons même pas 60, 70, on dit que 70, qu'il est déjà vieux, alors que c'est pas ça. Nous avons encore la possibilité d'aller au-delà si on prend l'information. L'information qui circule, l'information de santé, nous devons s'approprier ça.
Parce que la vraie d'ailleurs.
La santé, c'est notre première richesse. Tu peux avoir toutes les richesses, mais si votre santé est déséquilibrée, vous n'allez pas jouir. Et donc, que vous soyez des journalistes, que vous soyez le chef de l'État, le ministre, le paysan, dans cette forme, chacun doit s'approprier de cette santé. Et que j'invite, même ceux qui sont bien portants aujourd'hui, nous demandons aux praticiens de les exhorter à venir. C'est que si tu te dis que tu te sens en bonne santé, il faut aller en consultation. Là, vous allez voir plus
d'accord. Ce qu'est. Merci beaucoup, Basile Mignaké, d'être passé alors dans cette émission. Vous pouvez rester avec nous, hein, puisque justement, nous allons parler même d'ailleurs de la maladie de choléra tout de suite. C'est écrit, bien sûr, à la page, à la une, alors du journal Gazelle, les Gazelle Info. Donc, on va en parler tout de suite. Je sais que vous aurez quelque chose à dire sur ce point. Mais bien avant, nous recevons un autre confrère. Et c'est bien Rodrigue Ayego. Rodrigue, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les confrères autour du plateau, bonjour également à tous ceux qui nous suivent.
Voilà, vous êtes là, alors en tant que l'un des membres alors du Front Citoyen Togo Debout, et vous organisez même d'ailleurs une manifestation ce dimanche à Agouet. Alors concrètement, de quoi s'agira-t-il au cours de cette rencontre ou de ce meeting que vous projetez?
Vous savez que ça n'a pas changé depuis que le coup d'État constitutionnel a été perpétré. Les organisations de la société civile ont répondu à l'appel à elle lancé par Novation International pour mener des actions de rejet systématique de ce coup d'État constitutionnel qui viole les dispositions du Constitution de 1992, en l'occurrence l'alinéa 2 de l'article 59 qui dit que ce genre de démarche ne peut se faire que par référendum. Alors, vous comprenez que c'est dans cette démarche, il y a eu deux meetings à Condédi, il y a eu un meeting à Kassimé, il y a eu un meeting à Vaughan, et le meeting de Vaughan, c'était deux meetings simultanés qui devraient être organisés, et il y a eu un report suite, je dirais, à la suggestion du ministre de l'administration territoriale qui estime que l'endroit choisi par les organisateurs ne pouvait pas abriter le meeting parce que, étant situé juste à côté de la nationale numéro 1, donc une zone supposée hyper commerciale qui ne peut donc pas voir une manifestation. Donc, sur ces recommandations, la reprogrammation est faite et c'est sur le dimanche 13 octobre prochain à partir de 14h sur le terrain. Un terrain situé entre le PP central et les rails à Agoué, Nivémé.
Alors, le message serait quoi concrètement?
Écoutez, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le rejet de ce coup d'État constitutionnel. Parce que vous savez que j'ai évolué un peu dans un monde aussi du handicap où on dit plus rien pour nous sans nous. On ne peut pas accepter que le destin de plus de 8000 âmes soit hypothéqué par 80 combien de personnes, je ne sais quoi, enfermées dans une salle, notamment au moment où les gens dormaient paisiblement, ben les gens faisaient des coups à tout un peuple. Et donc, le message est clair, nous n'acceptons pas ce coup d'État constitutionnel-là, nous le rejetons et nous lançons un appel à un retour à la Constitution de 1992 qui est la Constitution votée par le peuple. Si on estime que dans cette Constitution, il y a des insuffisances, les canaux sont là. Vous savez également que l'Assemblée nationale qui a opéré ce coup d'État constitutionnel-là est une assemblée hors délai, une assemblée qui ne pouvait pas légiférer au regard même des dispositions de la Constitution de 1992. Quand vous prenez l'article 144, tout est clair là-dedans. Et donc, ce n'est pas une invention de notre part, mais nous marchons sur les dispositions de cette Constitution votée par le peuple et non par 89 personnes enfermées notamment dans une salle. Donc le message est unique, c'est un appel à mobilisation du peuple togolais. Vous savez, il faut clarifier une chose, qu'on soit président de la République, qu'on soit député à l'Assemblée nationale, on est mandaté par un peuple, on est au service d'un peuple. Ce n'est pas le peuple qui est au service des individus, mais ce sont ces individus-là qui sont au service du peuple. C'est pour ça qu'il y a un mandataire et des mandants. ça c'est clair. Et lorsqu'on est mandaté, on respecte ce que le mandant a confié comme mandat.
D'accord. Qu'est-ce qui se fait? Oui, est-ce que vous avez l'impression que l'appel à la mobilisation dont vous parlez, est-ce que le peuple répond à cet appel vraiment?
Dieu merci, on n'a pas encore fait face à un terrain vide comme certaines personnes l'évangélisent un peu partout à leur guise pour assouvir des besoins qui sont personnels et qui n'ont rien à voir avec les objectifs que les organisateurs poursuivent. Donc à partir du moment où on n'a pas encore fait face à un terrain vide, j'estime que le message passe et que le peuple écoute.
Est-ce que vous avez aussi l'impression que ce combat n'est pas perdu d'avance?
Écoutez, si le combat était perdu d'avance, on ne serait pas, je ne serais pas dans ce studio. Nous ne sommes pas des idiots, nous sommes assez intelligents. Nous lisons, nous suivons, nous écoutons. Nous sommes attentionnés par toutes les actions. Sinon, les faits très têtus parlent également. On pouvait laisser les gens, si ça ne dérange pas, on pouvait laisser les gens organiser tranquillement les réunions, organiser tranquillement leurs activités sans s'en prendre à eux, sans prendre des dispositions iniques pour soit disperser, soit interdire, ou soit empêcher les gens de jouir de leur liberté dans le cadre justement fixé par la loi.
D'accord. Finalement, puisque c'est vrai, on connaît ces derniers développements des manifestations au Togo, ou par après, on vous dira, ou peut-être à la veille, on vous dira que non, la manifestation n'est pas autorisée et tout. Est-ce que vous avez pris les dispositions nécessaires?
Novation internationale a toujours pris les dispositions nécessaires. Et vous avez vu tout à l'heure, je vous ai dit que c'est sur une recommandation du ministre de la Justice territoriale que le meeting d'Agoué a été reporté, reprogrammé. Donc, sur ce dimanche 13, ça voudra dire que, écoutez, Novation et toutes les organisations qui viennent en appoint à cette action de rejet de ce coup d'État constitutionnel sont des légalistes. Mmh. Nous respectons les institutions, mieux nous respectons les lois. Les lois, tant bien même que nous estimons que ce sont des lois qui souffrent d'insuffisance, nous les respectons. Nous ne sommes pas dans une défiance quelconque, non. Nous sommes légalistes. Nous ne sommes pas comme certains.
Oui, mais je posais une question tout de suite concernant le fait que si cette lutte ou ce combat n'est pas perdu d'avance, c'est parce qu'on connaît les derniers développements, même d'ailleurs, de cette nouvelle constitution, où déjà avec le gouvernement, on parle même d'ailleurs de la mise en place alors des nouvelles institutions, enfin des institutions. Et donc, est-ce que finalement, puisque ça a été promulgué, et il y a aujourd'hui, on est dans ce schéma alors de la mise en place alors des institutions. Est-ce que finalement, on pourrait encore revenir en arrière?
Je vous donne juste un exemple. Lorsque vous êtes né au Togo et qu'à un moment donné, vous constatez qu'il y a eu une erreur sur votre acte de naissance, vous allez faire ce qu'on appelle rectification. Quand on vous renvoie à des audiences données, ce n'est pas ça qui vous fatigue parce que vous voulez être légaliste. Et donc, ce qui se fait ne nous émeut pas. Ça ne nous étonne pas non plus parce que chacun est sur sa lancée. Mais écoutez, quand je vous renvoie, par exemple, ou si je vous renvoie vers l'avis des États-Unis, on vous parlera de 4e amendement, 5e amendement, 6e amendement. Mais ce ne sont pas les amendements qui comptent, c'est l'histoire qui entoure ces amendements qui compte. Il faut toujours des actions qui amènent à apporter de la lumière pour éclairer les zones d'ombre. Aujourd'hui, nous estimons que les gens sont dans une zone d'ombre qui leur semble confortable. Nous ne nous retrouvons pas dans cette zone. Et donc, notre devoir, notre mission à nous, c'est d'apporter de la lumière pour que ce qui puisse arranger tout le peuple togolais soit fait au nom de ce peuple-là et non au nom d'un individu ou au nom d'une seule personne.
D'accord. Le rendez-vous, c'est ce dimanche,
ce 13 octobre. 13 octobre, à partir de 14h00, le terrain situé entre le PP central et les rails, à Agouen-Ivémé.
Rodrigue Aigo, merci d'être passé alors dans cette émission.
Merci Pascal et bonne suite. Je profite pour finir, lancer cet appel aux populations togolaises de ne pas abdiquer, parce que quand on est légaliste, quand on est sur le droit chemin, on ne regarde pas l'obscurité qui tend à vouloir flouer la vue, parce qu'on est dans la lumière et la lumière éclaire l'obscurité.
D'accord. Alors, ok, merci beaucoup Rodrigue d'être passé alors dans cette émission. Nous sommes rejoints par Sylvestre Béni. Sylvestre, bonjour.
Oui, bonjour Pascal.
J'espère que tu vas bien.
Je voulais en fait poser une question à Rodrigue.
Vous voulez poser une question à Rodrigue? Il n'y a pas de souci.
Est-ce qu'ils ont fait avec toutes les dispositions pour qu'ils ne soient pas infiltrés et qu'on connaisse des gravures plus tard?
Écoutez, lorsque vous êtes dans la dynamique du respect de la loi et que vous adressez une note d'information au ministre de l'administration territoriale, La réponse, par exemple, qui nous avait été donnée par le ministre et qui a servi de base au report de ce meeting, vous allez voir dans un coin situé au bas, côté gauche, qu'il y a ampliation au ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Ce qui voudra dire que le ministre a un rôle à jouer en matière de sécurité. C'est le rôle du ministère en charge donc de la Sécurité et de la Protection civile de prendre toutes les dispositions pour que ce meeting-là se déroule sans grabuge. Et au niveau des organisateurs également, des dispositions sont généralement prises. Mais infiltrées, écoutez, je ne vois pas quelle marque peut être mise au fond de quelque Togolais que ce soit pour dire que ce dernier est venu pour semer le désordre, pour semer la pagaille, et que la personne soit envoyée par X ou Y, mais comme je le dis, c'est en étroite collaboration avec les forces qui seront déployées par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et les dispositions prises par les organisateurs que pourra être mis hors état de nuire tout individu qui voudra s'essayer, comme ce fut le cas la dernière fois. J'ose croire que ce qui s'est passé la dernière fois, que les dispositions sont prises pour que cela ne se répète.
Vous voulez parler alors de l'agression jamais. Du 29 septembre.
Bien sûr, parce qu'on n'a malheureusement pas le temps d'aller au fond. J'ai suivi des commentaires, j'ai suivi des tractations pour expliquer, même des gens qui n'ont pas mis pied sur place ont eu le pouvoir de lire dans la boule de cristal pour avancer des arguties qui sont totalement fallacieux, qui ne me surprennent pas. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le ministère de la Sécurité fera son travail, les organisateurs feront leur travail pour que rien n'arrive à tous les Togolais qui vont se mobiliser pour participer à ce meeting du dimanche 13 octobre
d'accord,
2024.
D'accord. Merci beaucoup, Rodrigue Yego, d'être passé alors dans cette émission. Mais si vous le voulez bien, vous pouvez rester avec nous pour le débat. Il n'y a pas de souci. Alors, chers confrères, nous allons parler d'autre chose. Bien sûr, on commence notre débat avec cet élément ou ce sujet alors de santé. Et c'est Gazelle Info qui nous en parle concernant même d'ailleurs l'épidémie alors de choléra. On sait que avec un communiqué en date alors du 2 octobre dernier, il y a le ministre de la Santé, Tien Daré, professeur Tien Daré, bien sûr, qui nous informait qu'il y a l'épidémie alors de choléra qui est dans la préfecture alors de Golfe. Et déjà, on enregistre des cas, et non seulement des cas, mais on enregistre même d'ailleurs des décès aussi. Alors, Gazelle Info, SL, vous titrez à la une de votre journal ce matin, choléra vigilance. Donc, il nous faut, en tant que population, il faut aussi prendre des mesures aujourd'hui pour être aux aguets.
Et bien évidemment, il faut rappeler qu'il y a de cela deux mois, je crois en juillet exactement. Nous sommes en trois mois, disons, juillet à octobre. Donc ça fait pratiquement trois mois qu'il y avait eu un premier communiqué déjà du ministre d'alors qui annonçait la présence d'un cas de choléra détecté à Vaughan, dans la préfecture de Vaud, et qui avait alerté déjà pour la prise des dispositions. On avait relayé aussi l'information à l'époque en guise de notre responsabilité sociétale, comme on vient encore de le faire, mais à partir de cet instant, depuis le 2 octobre, un nouveau communiqué est sorti de la part du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, qui informe que les cas de choléra sont également détectés dans le district sanitaire du Golfe et on déplore déjà malheureusement quatre décès, dont deux cas à la maison. Donc des mesures également sont prises pour un mécanisme national de détection précoce et de prise en charge complètement gratuite. Il a élaboré également certaines dispositions qu'il faut prendre comme le lavage des mains, couvrir les aliments pour éviter de la poussière. Et quand on finit les déjections, il faut se mettre dans les bonnes conditions. Donc tout ça, là, c'est à découvrir quand même dans le journal. Mais il faut dire que le choléra, c'est une maladie diarrhéique qui tue. On témoigne déjà des cas de décès déplorés. Donc on doit vraiment être vigilant, être en alerte possible. Dès qu'il y a des premiers signes qui s'annoncent déjà, comme les vomissements ou des diarrhées, même si tous ces signes ne sont pas au complet, il faut déjà alerter, surtout que la prise en charge est gratuite. Il faut se dépêcher dans le centre de santé le plus proche pour la prise en charge, pour ne pas contaminer et d'autres autour de nous.
D'accord. Abbas, aujourd'hui, il faut vraiment de la vigilance et surtout prendre des dispositions pour ce qui concerne surtout la question d'hygiène, puisque c'est si on n'observe pas, alors c'est de l'hygiène, et c'est en ce moment quand même qu'on peut contracter la maladie.
Oui, c'est des questions d'hygiène. Il faut les respecter, comme l'a recommandé le ministère de la Santé. Il faut se laver les mains. Surtout, on va revenir comme ça s'est passé au temps du Covid, où la vigilance doit être de mise pour éviter de prendre cette maladie. Parce qu'on a signalé ça dans le Golfe. Voilà. J'ai peur même que ça devienne beaucoup plus grave parce que les gens sont allés ramasser du riz sur un dépotoir où on peut même s'attendre à avoir même du choléra. Donc c'est des choses qu'il faut maintenant appeler les gens à être beaucoup plus vigilants, surtout par rapport à cette histoire à cette maladie-là, qui est très très sensible et contagieuse, beaucoup plus. Et on peut l'attraper lorsqu'on n'entretient pas une hygiène complète. Et le ministère a bien fait de lancer un appel, d'appeler tout le monde à être vigilant. Et cette fois-ci, je pense qu'on doit respecter les consignes qui sont données pour éviter d'attraper cette maladie. Donc, lavage des mains. Et lorsque vous voulez prendre quelque chose, au moins, également, prendre soin de son corps, de soi-même, pour éviter que on puisse avoir cette maladie. Parce qu'on ne peut pas aller. Vous allez prendre un plat pour manger, vous ne vous lavez pas les mains, vous ne savez pas ce qu'il y a tout autour, et vous plongez votre main dans ce plat-là, et vous commencez pas à manger alors que vous n'êtes pas lavé les mains. Donc, même les fruits, quand nous voulons les manger, il faudrait qu'on puisse bien les laver et les épeler avant de pouvoir les consommer. Sinon, on risque d'avoir beaucoup de problèmes de santé.
Sinon, on risque d'avoir beaucoup de problèmes de santé. Sylvestre, c'est vrai que quand on a annoncé déjà des cas de cette maladie, également des cas de décès, personnellement, ça m'a surpris un tout petit peu. Je me suis dit, au 21e siècle, en 2024, quand on parle encore de choléra, est-ce que ce n'est pas aussi si facile, ça?
Non, écoutez, il y a ce genre de maladies qui traversent donc les générations ou les siècles. Mais ce que je déplore au pays, c'est que nous avons déjà 4 cas, nous avons 4 décès. Mais j'ai l'impression qu'au niveau de la communication, de la sensibilisation, ça ne prend pas. C'est bon?
Allez-y.
Au niveau de la communication, ça ne prend pas parce que déjà, et 4 décès et que personne, ou du moins au niveau du gouvernement, ne puisse pas peut-être ameuter, communiquer beaucoup plus sur le sujet. Parce que vous savez, des jeunes ont repris les classes il y a quelques semaines. Je crois qu'à ce niveau-là, la sensibilisation doit être beaucoup plus, on doit beaucoup plus communiquer, sensibiliser surtout les jeunes. Et donc, jusqu'à peut-être ce matin, je pensais que le ministère des enseignements primaires et secondaires allaient même communiquer. Parce qu'il faut déjà, il faut le faire. On a déjà 4 cas. Vaughan, c'est Lomé, hein. Vous voyez, puis
il y a... Dans le Golfe, il y a Lomé.
Un cas déjà dans le Golfe.
Voilà, notamment dans le Golfe.
4 cas dans le Golfe. 4 décès.
Dans le Golfe, vous voyez. Vous voyez, et on ne puisse pas peut-être véritablement communiquer là-dessus. Moi, je me dis qu'il y a des soucis. Hein, il y a des soucis au niveau du gouvernement. C'est vrai que le ministre de la Santé a communiqué, mais il faudrait maintenant que ce soit le gouvernement. Passer, vous savez, généralement, après quelques forfaitures, il y a des ministres qui défilent sur les médias, qui vont sur tous les médias dans la semaine. Ce ministre, au moment où quelqu'un a Y, l'autre a I, ils inondent donc les médias pour nous faire passer donc la pilule. Ben, cette fois-ci, il y a urgence. C'est un cas social, donc il faudrait qu'il soit également sur les médias pour communiquer sur ce qu'on aura. 4 cas dans le Golfe, je crois que c'est assez alarmant. Mais bon, j'ai l'impression que voilà, quand on parle peut-être de manière isolée, mais il faut beaucoup plus d'accentuation sur la sensibilisation.
Basile, est-ce que vous avez aussi l'impression qu'il n'y a pas de mobilisation autour, même d'ailleurs, de la sensibilisation pour cette maladie? Parce que déjà, un Togolais mort, c'est déjà de trop.
Oui, vous savez, un cas de diarrhée déstabilise le système déjà. Je dis un cas. Parce que c'est une maladie grave qui s'étend, qui se propage rapidement. Et nous connaissons dans ce pays, surtout à Lomé, les quartiers où ces maladies peuvent surgir à tout moment. Donc, il y a nécessité de communiquer en amont. C'est-à-dire que nous rentrons, nous sommes rentrés dans la période des pluies et on doit s'attendre qu'il peut avoir. Parce que la prévention, c'est quoi? C'est de préparer et de ne pas faire face à la maladie. Là, on est dans la prévention. Mais si vous restez et vous faites face à la maladie, aujourd'hui, les formations sanitaires sont chamboulées. Il doit y avoir une désorganisation. Et je plains pour les directeurs de ces centres de formation qui ne savent pas là où mettre la tête. Vous savez, en Angleterre, on a éradiqué le paludisme en 1921. Le palud, aux États-Unis, en 1952 ou bien 53. Il n'y a plus de ces maladies-là. Et le choléra, on n'en parle pas. Il n'y a plus ça. Parce que ça fait partie du passé. On doit privilégier l'information. L'information en amont. Sinon, on va parler du système de AMU aussi, qui fait que lorsqu'on n'investit pas dans l'information, hein, dans la sensibilisation, nous avons des médias. Il faut utiliser les médias. C'est pourquoi nous, la santé éducation, si vous nous appelez, le ministère nous appelle, sans la facture, nous, on ne bouge pas. Aujourd'hui, on a fait une vaccination de la rage, le 5 par passé. J'ai dû aller dans le cabinet du président de l'ordre pour dire que les gens nous appellent, qu'on dit qu'on fait vaccination d'une manière gratuite, que c'est gratuit. Mais on appelle, on dit qu'ils n'ont pas d'informations. J'étais parti là-bas et ils m'ont dit que non, que c'était sur le 5, que c'est fini. Et vous voyez. Mais c'est maintenant que les gens s'apprêtent à amener leurs bêtes à la vaccination. Ce qui veut dire qu'on n'a pas l'information.
L'information
manque au ministère et nous sommes prêts dans notre réseau qui regroupe plusieurs de médias à aller rencontrer le ministre, le nouveau ministre, sur ce manquement, sur cette défaillance.
D'accord. Mais Rodrigue, est-ce que vous avez aussi l'impression que sur cette question de sensibilisation contre la maladie de choléra, il y a vraiment un déficit d'information?
Il y a déficit d'information. Ça, ce n'est pas aujourd'hui que ces déficits se sentent. Mais je peux peut-être étonner, mais chaque fois qu'il y a ce genre de situation et on met la communication en avant par rapport aux actions qu'il faut sur le terrain, je me dis qu'il y a problème quelque part. On n'anticipe pas. Vous savez, gouverner, c'est prévoir. Et comme l'a dit tout à l'heure Basile, on sait qu'il y a des quartiers, par exemple, qui sont vulnérables à ce genre de pathologie. Et donc, qu'il faille, par exemple, prendre des dispositions dans le temps afin de porter assistance aux populations qui sont dans ces différents quartiers. Mais on ne voit rien. Vous prenez un quartier comme Badago, par exemple. Et il n'y a pas que Badago. Vous prenez Zongo à côté de la BTC ici. Vous prenez Agoué, vous prenez Adakpa, mais vous prenez, par exemple, les zones qui sont inondées. Aujourd'hui, par exemple, vous prenez une commune comme la commune du Golfe 5, où les ordures dorment, passent des jours à la maison.
Et même des mois.
Et même des mois à la maison avec les populations. Ça, ce sont des situations qui exposent donc à ce genre de maladie. Mais qu'est-ce qui se fait? Non. Prenez nos caniveaux aujourd'hui. Allez voir ce que les bonnes dames, allez voir ce que les populations jettent dans ces caniveaux-là. Les restes des pâtes, les restes de riz, etc. De ces nourritures-là qui attirent les mouches. Et quand vous allez vers, par exemple, les abords de ces routes-là, vous voyez vers 15h, 16h, vous voyez comment les gens mangent allègrement avec appétit, hein, avec la compagnie, bien sûr, de ces mouches qui viennent, etc., etc. Et donc, il y a normalement des dispositions à prendre. Quand on dit qu'aux États-Unis, on a éradiqué le paludisme en 1000, combien, quand on parle de l'Angleterre, etc., mais la question est de savoir comment ces pays-là se sont pris pour qu'on ne parle plus de ça. Et nous, chaque année, c'est comme si dans notre programme, on s'apprête à balancer un communiqué et puis bon, voilà, on dit qu'il y a choléra, il y a 2, 3, 4, 5 cas et on demande aux populations de se laver les mains comme si le lavage des mains systématique permet de prévenir le choléra. Non, ce n'est pas ça.
Tu te laves les mains,
entre nous, tu te laves les mains, tu ne sais pas quand est-ce qu'une mouche va s'inviter. Parce que nous sommes dans des quartiers qui sont mal propres. Prenez Lomé par exemple. Prenez ici, là où nous sommes, là où il y a ce studio. faites un tour, vous allez voir ce que ça représente. Donc moi je pense qu'il faut poser le problème, impliquer les acteurs qui ont un rôle à jouer en la matière et se fixer comme objectif éradiquer ce mal-là d'ici 2-3 ans pour qu'on ne soit plus là à parler de cela.
Je pense que
c'est faisable.
Il y a
des quartiers, allez à Nikonakwe, il y a des gens qui ont fait la liaison de leur sanitaire aux lagunes directement, qui déversent tout, des trucs dans les lagunes. Allez voir ailleurs dans les caniveaux ce que les gens fabriquent. Et les odeurs nauséabondes qui se dégagent autour de midi et 13 heures lorsque le soleil décide de frapper de ses rayons le sol avec fureur. Donc, moi, je pense qu'il faut que le débat soit posé, le sujet soit mis sur la table avec sincérité, avec un objectif, éradiquer ce mal dans une période donnée.
D'accord.
Et je pense qu'avec ça, on associe la communication et le travail pourra se faire efficacement.
Ok, nous quittons le sujet, on aborde un autre sujet. Bon, et c'est Abbas, c'est vous, c'est vous qui... Non, on va quitter le sujet, on aborde un autre sujet.
Parce que c'est très, très sérieux par rapport aux enfants, à nos élèves qui vont dans les établissements, parce que c'est là, on ne peut pas de n'importe quoi pour les amener à acheter. Donc il faudrait qu'au niveau des directions régionales de l'éducation et de l'enseignement, on puisse prendre des dispositions afin de contrôler tout ce que les enfants mangent, afin qu'ils ne reviennent pas malades avec le maux de ventre à la maison. Puisque j'ai vu un cas la dernière fois, l'enfant est allé manger à la récréation, il est revenu malade. Il a des maux de ventre. Donc, ce sont ces genres de choses. Il faut contrôler au niveau des établissements scolaires ce que nos enfants mangent.
D'accord. Abbas, je reste avec vous pour parler de ce deuxième sujet. C'est concernant la publication alors du rapport Business Ready. Et vous écrivez « Premier rapport Business Ready 2024 de la Banque mondiale, les bonnes notes du Togo, premier en Afrique de l'Ouest, troisième en Afrique subsaharienne. » Alors, Abbas, finalement, nous sommes en train de faire des prouesses.
Oui, on fait ces deux prouesses au plan économique. C'est sur les réformes économiques, comme on le faisait avec Doing Business. Maintenant, ce rapport Biridi est venu prendre la place de Doing Business. Et ce rapport englobe cette nouvelle, c'est le premier rapport. Ça englobe l'ensemble des réformes économiques au plan mondial. Et sur le plan national, on a vu que le Togo avait commencé avec Blue Business à faire des réformes à certaines situations. Pour ce rapport, c'est que ça concerne le cadre réglementaire, la fourniture de services et la capacité de leur performance et de leur fonctionnalité. Donc c'est ce que ce rapport-là a tenu compte. Donc il y a 50 pays qui ont été pris comme pays pilotes, et donc 14 pays africains. Et sur les 14 pays africains, il y a 5 pays de l'Afrique de l'Ouest et les autres font partie de l'Afrique subsaharienne. Donc c'est dans ces conditions que, par rapport à ce qui s'est passé sur le plan des réformes au niveau de, la création d'entreprises, au niveau de ces entreprises qui fonctionnent, les services qu'ils fournissent, au niveau des litiges fonciers, de leur emplacement et autres, il y avait 10 critères qui étaient là, et si ces 10 critères, le Togo a pu avoir quelques critères, surtout l'emplacement des entreprises, la création des entreprises, le service public qui rentre, et également le règlement des litiges au niveau de ces entreprises, puis la médiation. Vous voyez que la dernière fois, hier, on a mis en place ce qu'on appelle, au niveau de la justice, il y a un lancement qui a été fait pour mettre un bureau. D'information et d'orientation. Donc c'est tout ça là qui a fait que sur le plan des réformes économiques, comme ça a commencé avec Green Business, ce rapport Business Ready vient remplacer l'autre
Business. D'accord. Oui, mais Sylvestre, c'est vrai que c'est des rapports, nous avons toujours de ces rapports, on en avait même parlé dans ce studio avec la prouesse, la performance alors du Togo, et au-delà de tout, est-ce que l'impact même d'ailleurs de ces classements ou de ces chiffres est aussi probant au sein même d'ailleurs de la société?
J'ai toujours dit ici que je regarde tout cela de loin. Le Togo est premier dans tout. Mais c'est au Togo que les gens vont chercher à manger sur les dépotoirs. Mais nous sommes premiers dans tout. Vous voyez,
est-ce que ce n'est pas un fait isolé?
Non, comment un fait isolé? Au-delà même de ce fait isolé-là, les Togolais tirent le diable par la queue. Il y a certains qui ne trouvent même pas le diable afin donc de lui tirer la queue. Voyez-vous? C'est-à-dire que vous voyez un peu le pays, c'est-à-dire la paupérisation de la population est tellement indicible. Vous sortez, vous voyez la misère dans tous les visages. C'est la misère ambiante. Voyez, circulez un peu à Lomé, vous verrez que personne n'est. C'est-à-dire que les gens font semblant, ils feignent, ils font semblant d'être heureux. Mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est pourquoi les églises ont dit réveil en bonne, parce que les gens ne savent plus à quel sexe vous et puis voilà, pour espérer qu'un jour, peut-être que la manne va tomber du ciel. Voyez, et depuis là, j'ai toujours dit que c'est le même système qui est là depuis des années. Et c'est le même système qui dit qu'il est toujours premier, mais l'impact au niveau du panier de la ménagère, c'est rien. On ne sent pas l'impact au niveau du panier de la ménagère. C'est cela. Sinon, on aurait pu peut-être déverser des tonnes de riz avariés sur un dépotoir. Personne n'irait chercher. Parce que les gens n'ont pas de quoi manger. Ils se disent, au moins, si on va chercher ces riz-là, on fait une bonne cuisson, peut-être que, bon, on serait épargné donc des maladies. Si bien qu'ils ont franchi même le pas, aller sur un dépotoir. Pas un lieu où on parle de dépotoir. Ils sont allés chercher à manger sur un dépotoir. Mais c'est dans ce pays-là, on est premier. On dit, avant c'était du business. Avant on dit premier réformateur. Et maintenant on dit, on est encore premier, quoi. Et on est toujours premier. Mais au niveau
Vous doutez alors de ces performances que nous avons?
Non, je vous dis que je ne doute, je regarde tout cela même de loin. Donc c'est pourquoi même aller scruter pour douter. Parce que la réalité, normalement, si on dit on est premier, les citoyens devaient sentir cela. Vous voyez? À chaque fois qu'on dit qu'on est premier dans quelque chose, les citoyens devaient sentir. Bon, je donne juste un exemple banal. Si on me dit, bon, ton papa a eu une promotion, mais ça veut dire, au sein donc de la famille, on doit sentir cela que papa a eu une promotion. Tu vois? C'est papa qui gagnait peut-être à l'époque, peut-être 200 000, et on dit papa a promotion maintenant, il est autour de 500 000. Mais déjà au niveau du foyer, on doit sentir cela. Mais si on dit papa promotion et qu'au sein du foyer, on ne sent pas, mais quelle est cette promotion-là? Voilà, c'est la même chose. Mmh. On est premier, mais on ne sait pas. Ouais, c'est pourquoi j'ai souvent l'habitude de dire que c'est la balade des gens heureux, quoi. C'est-à-dire que c'est ceux qui sont en haut d'en haut là, qui bon, peut-être que. Je ne sais pas s'ils profitent de quelque chose. Je ne sais pas si on a même un trophée ou de quelque chose. Pour le pays, parce qu'on est premier, bon, voilà, quand on ne voit pas de. Mais voilà, qu'est-ce que tout cela donne? Qu'est-ce que tout cela donne? C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils se réjouissent, quoi. Ils se réjouissent qu'on est premier. On a gagné des conférences de presse, et après, bon, c'est fini, quoi. Et jusqu'au moment où, même la dernière fois, avant ce dernier classement-là, on disait qu'on était premier sur. Premier réformateur, on n'avait même pas la moyenne, mais on est premier. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on n'a pas la moyenne dans le classement, mais on est premier. Comment est-ce qu'on peut expliquer tout ça?
C'est parce qu'il y a des indicateurs bien précis sur lesquels...
C'est pourquoi je regarde tout cela de loin.
On l'a fait. Quand on parle alors de ces performances du Togo aujourd'hui, c'est des efforts du gouvernement, des efforts des autorités.
Oui, c'est ce qu'ils disent, en fait. Puisque l'activité, je n'ai même pas été invité, je ne connais pas les tenants et les aboutissants pour mieux en discuter. Mais de manière basique, quand le débat qui se pose toujours, c'est l'impact en fait de ces classements et cette communication souvent sur les populations. Puisque les projets sont adressés vis-à-vis des populations. Donc pour mesurer vraiment les résultats, il faut qu'on mesure également l'impact sur ces populations. Force est de constater que les populations se plaignent de l'impact de ces projets. Mais on écoute souvent que dans les résultats, le Togo est bien classé et tout. Donc, tout le débat se situe là, en fait. Il y a des efforts qui sont faits, oui, on ne peut pas les nier. Mais l'impact reste vraiment à délivrer. On a l'habitude de le dire toujours ici. On ne connaît pas vraiment les critères sur lesquels ces classements sont faits. Seules peut-être les institutions internationales la maîtrisent, les critères sur lesquels les classements sont faits, mais on a envie de savoir et creuser plus. Mais en l'absence d'invitation ou en l'absence d'une communication un peu plus large pour étayer vraiment les lanternes des journalistes, bon, on regarde et on essaie de faire des analyses personnelles, c'est tout.
D'accord. Basile?
Oui, Pascal, vous savez, des fois, ça me donne à réfléchir, moi, santé éducation. Parce que
Vous savez, dans les années 80, 70-80, nos hôpitaux, nos formations sanitaires étaient prêts. Mais il n'y a pas de patients. Parce que tout le monde se portait bien, tout le monde mangeait bien, il y avait cette prospérité. Mais après 90, c'est le contraire. Les gens vont à l'hôpital et maintenant il n'y a rien. Monsieur White, je n'aime pas faire la comparaison, mais je réfléchis. Parce qu'une fois, on était parti, parce qu'on a vu que ce sont les Togolais qui allaient se prendre en charge au Ghana. Donc on est parti pour voir pourquoi les Togolais allaient au Ghana. Et le jour-là, on est tombé sur un inspecteur qui nous dit que, il y a Togolais. Et puis on a commencé à parler. Il nous disait que eux, ils se sont basés sur le système togolais pour implanter ça. Que eux, ils venaient avant pour se faire prendre en charge au Togo. Parce qu'ils traversaient la frontière. La frontière, nous sommes une ville frontalière. Donc, c'est l'impact. C'est-à-dire qu'on doit sentir ça. Vous savez, lorsque vous suivez, à chaque fois, je suis à chaque fois le discours du PR tout récemment, où il conviait les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux, et les responsables, à se mettre à la disposition des populations, à travailler pour les populations. Mais lorsqu'on sort de ce débat, de cette grande rencontre-là, il n'y a plus rien. On se voit. Donc, ça, on met un doute sur la crédibilité de ces publications qui sont
de ces classements.
De ces classements.
D'accord. Rodrigue, est-ce que vous voyez l'impact de ces classements sur la vie des Togolais?
Oui, moi je vois l'impact de ces classements sur la vie des Togolais parce que ça amène à mentir davantage dans la cité, dans la communauté. Parce que ce sont des chiffres assez trompeurs qu'on avance tout le temps. Écoutez, lorsque, par exemple, vous êtes père de famille, on vous dit que vous avez un grand champ, vous avez produit cette année beaucoup de tonnes de céréales et que par extraordinaire, on rencontre votre femme et vos enfants, par exemple, au moulin, en train de demander au meunier de leur servir le reste que les pieds, le reste qui est piétiné au sol.
C'est paradoxal.
Vous comprenez. Donc là, vous avez répondu vous-même à la question que vous me posez. On ne peut pas comprendre qu'on dise oui, réforme, oui. Mais quand vous faites les réformes, vous savez pourquoi on fait les audits des structures? C'est pour voir si, entre-temps, le projet piloté ou bien les dispositions prises face à certaines situations ont pu porter un fruit. Si ça a marché, qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Si ça n'a pas marché, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Et à partir de là, on prend des résolutions, on prend d'autres dispositions pour que l'échec, si c'est ça qui est constaté, ne se produise plus. Mais est-ce que nous, on est là? Depuis qu'on a commencé par gouverner ce pays avec des sigles, avec des rapports, je me souviens, il y a une année où on avait même parlé de 4% comme taux de chômage. C'était dans l'un des discours du chef de l'État. Et le jour-là, j'ai dit, mais taux de 4%, même en France, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Vous voyez? Donc, heureusement que nous ne sommes plus à l'époque où les Togolais croyaient à tous les chiffres qu'on avançait. Sortez juste, demandez aux Togolais de voir l'impact. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Aujourd'hui, le bol de maïs est à combien? On dit on a fait des réformes. Pourquoi? Pour nourrir, écrire sur les papiers, c'est bon, c'est fini? Non, il n'y a pas ça. Le Togolais veut toucher du doigt la réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Le bol de maïs est à combien aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez encore payer le bol du haricot? Le litre du lait à combien aujourd'hui? Le pain, est-ce que vous avez encore payé le pain de 200? Vous voyez la taille de ce pain-là? Donc, ces chiffres-là, on les avance. Mais pour moi, ça ne rassure pas. C'est un peu dommage. Est-ce qu'on ne peut pas changer de mécanisme? Est-ce qu'on ne peut pas changer d'angle? Est-ce qu'on ne peut pas changer d'indicateur qui produit ces chiffres-là, qui ont du mal à convaincre? Est-ce qu'on ne peut pas changer d'indicateur? Il faut juste peut-être interroger 20 Togolais sur 100 Et là, on a des indicateurs. Les Togolais vont parler.
D'accord. Oui, mais Sylvestre, je voudrais qu'on parle alors de cet article hein, que vous avez écrit dans le journal Machette, bien sûr, à la une de votre journal. Vous écrivez « Togo, journaliste en danger, la milice étant sa cible ». Et là, c'est un article que vous écrivez par rapport même aux agressions et même d'ailleurs à certaines intimidations de certains confrères ces derniers temps.
Oui, je crois que vous tous avez suivi ce qui s'est passé le 29 septembre dernier au siège de la CDPA. C'est pas à Hanokopé, hein. Il y avait ce siège à Hanokopé, mais la rencontre s'est tenue au niveau donc de la forêt Soa, juste contigu à la clinique Baroui. Donc la direction nationale de la police s'est trompée en parlant de Hanokopé. Et deux jours après aussi, c'est pas bien pour l'image donc de la direction nationale de la police, qui deux jours après s'est même trompé sur le lieu de l'accident. Maintenant, je reviens à la question posée. Je crois que vous avez vu tout ce qui s'est passé la dernière fois, et au-delà même des politiques, puisque selon, si on voit, si on voit le fait, et si on met tout de bout en bout, en réalité, ils étaient venus pour Sagna, le député sénégalais. Et puis ils ont profité donc pour donner quelques coups aussi à la députée togolaise. Et puis tous ceux qui étaient là ont reçu des coups.
Et au-delà,
ils sont venus donc au niveau des journalistes qui ont été bastonnés. Et certains ont vu leur matériel emporté, d'autres jetés dans un puits. Et ce qui devient encore écœurant, ou c'est véritablement alarmant, au-delà, après les faits, mais ils continuent. Ils ont appelé un journaliste. Vous lui dites, vous, on vous a demandé de cesser vos activités, vous continuez, on va vous rentrer dedans.
Tout récemment,
il y a Abel
Agbeko. Vous
voyez, voilà. Donc ils sont là au-delà, c'est-à-dire après, maintenant, ils étendent la cible. Et ils appellent maintenant les journalistes pour leur dire, on vous dit de cesser vos activités, ne couvrez pas les meetings, ne publiez pas les images, ne publiez pas les vidéos, sinon on va vous rentrer dedans. Vous voyez, ce sont quand même des gens qui... Et vous savez, c'est dans quel livre on parlait des ossuies là, les intouchables. Il y avait un ouvrage à l'époque que nous avons lu, je vais me rappeler tout à l'heure. Et ils sont devenus les intouchables de la République. C'est-à-dire qu'ils ne craignent rien.
Chimachebe,
voilà.
Le monde s'effondre.
Ils font la patte. Oui, voilà, le monde s'effondre. Et donc aujourd'hui, ils n'ont plus peur de personne. C'est après les faits, on a annoncé des enquêtes, eux, c'est pas leur tâche de thé. Ils continuent, ils appellent maintenant pour vous dire. On va vous rentrer dedans. Ça veut dire nos pères de personne. Et ceux, avis à ceux qui ont commencé donc les enquêtes, ceux qui ont même reçu les dépositions des journalistes, des cinq. Il y a cinq journalistes qui ont été reçus par le commissariat central. Ils ont fait des dépositions. Trois ont déjà signé. Mais je crois qu'il reste deux autres. Je ne sais pas, peut-être ils passeront dans la semaine pour signer. Et lorsque vous écoutez les confrères, ils disent que, surtout le confrère... Clousset, que j'ai suivi, même sur une chaîne internationale.
Il y a Clousset.
Il dit qu'il a tellement mal à la tête. À chaque fois, il doit aller à l'hôpital. Vous voyez, on serait même dans un pays qui respecte les normes des choses, disons les choses un peu de manière basique, qu'on devait même prendre ces journalistes en charge. Le monsieur, à chaque fois, il dit qu'il a mal à la tête, On devait même l'aider à faire le diagnostic nécessaire, à aller voir, consulter et tout ça, faire des scanners et tout. Mais on le laisse, à chaque fois, le monsieur va à l'hôpital et revient. Si demain, quelque chose lui arrivait. Voyez-vous, donc, il faudrait qu'on puisse discipliner. Je crois que le PPT l'a dit dans son communiqué. Il est temps que les autorités puissent user de tout leur pouvoir pour discipliner cette milice-là qui se prend des airs. Et qui même décoche son téléphone pour appeler les journalistes pour les menacer.
Abbas, à l'heure actuelle, quand on appelle encore des journalistes pour les menacer, est-ce que ce n'est pas la liberté d'expression qui reçoit vraiment un coup?
Ouais, la liberté d'expression a beaucoup plus, beaucoup, beaucoup menacé. Parce qu'on ne peut pas continuer dans cette histoire-là. Quand on parle, depuis 34 ans, on est là, on a acquis la liberté d'expression, il faudrait que tout le monde s'exprime. La liberté d'expression, ce n'est pas les muscles. C'est l'intelligence, c'est un débat démocratique qu'on fait. Donc lorsque quelqu'un veut mettre ses idées, il faut le laisser aller jusqu'au bout. Ne lui dites pas que ce que... Parce que c'est la différence là qui fait que on parle de la démocratie. Mais lorsque quelqu'un veut s'exprimer et il fait son travail, sur son lieu de travail, vous allez vous l'attaquer. Et vous dites qu'il ne faut pas qu'il fasse son travail. Je pense que notre liberté d'expression que nous avons acquise depuis des années 90 jusqu'à ce jour est totalement menacée. La dernière fois même, au stade de lors de la le dimanche dernier, il y a des journalistes aussi qui ont été agressés à Blogame lors de du championnat féminin où les journalistes ont été agressés. Oui. Donc tout ça là, on dit que on ne veut pas que nous
fassions. Romia Dakikoku, voilà, il y a deux journalistes.
Il faudrait qu'on nous laisse faire notre travail sans chose. Hein.
Oui, mais c'est déjà quand on voit ces menaces et aussi ces intimidations aujourd'hui, alors on se dit mais normalement c'est à une époque révolue normalement, ça ne doit plus alors se passer.
Ah oui, tu l'as bien dit, c'est révolu. Nous ne sommes que dans l'exercice de notre fonction. C'est ce qu'on a aussi appris, c'est ce qu'on exerce sur le terrain. Donc, ces intimidations sont vraiment d'une autre époque et elles n'ont pas leur place d'être, en fait. Surtout que c'est juste dans l'exercice de leur fonction. Ils ne sont pas allés sur un terrain neutre, ils ne sont pas allés provoquer qui que ce soit. Ils sont sur le terrain en train de couvrir les activités. Donc, les menaces, les intimidations, tout ce qui s'en suit, ça n'a vraiment pas de place, quoi. Vous savez, on est allé jusqu'à dépénaliser, en fait, les délits de presse. Donc, ce n'est pas sur le terrain. Aujourd'hui, on va venir encore dresser ces menaces-là pour saper tous les efforts qui sont faits pour acquérir pour ces acquis-là depuis belle lurette. Donc, je crois qu'il faut sincèrement arrêter. Il faut permettre aux journalistes d'exercer librement leurs fonctions, tout comme ils sont en train de le faire aussi. Personne ne vient les menacer, quoi, dans le cadre de leur activité. Donc, donnez-nous la possibilité, laissez-nous les mains libres d'exercer notre activité. C'est ce qu'on sait faire le mieux.
Voilà. Rodrigue, alors, je ne sais pas si vous avez invité des journalistes pour votre rencontre à l'heure de dimanche, mais avec des menaces et des intimidations hein, que certains journalistes reçoivent parce qu'ils couvrent des événements ou des meetings ou des organisations ou des rencontres alors des rencontres politiques. Alors finalement, est-ce qu'on ne doit pas se plaindre aujourd'hui?
Mais on doit se plaindre et dénoncer. Mais est-ce que ça suffit? Parce que, est-ce que nous connaissons véritablement le mal? C'est la question que je me pose. Il y a une année, une autorité, à l'époque au Perché, a appelé ceux-là nos jeunes. On les avait qualifiés de forces d'autodéfense.
Groupe d'autodéfense.
Vous comprenez cela? C'est la déchéance totale. Parce que lorsque vous êtes là, j'ai parlé, quand je parlais du meeting du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, c'est à ce ministère-là et à ces corps-là que le peuple togolais a confié le rôle d'assurer sa sécurité. Mais que les gens qui sont censés faire usage de ces corps décide de faire appel à d'autres corps. Je pèse bien mes mots parce que la personne qui avait appelé sa force groupe d'autodéfense ou nos jeunes sur des radios, dans des émissions, y compris dans ce studio, nos jeunes, ça a tout son sens. Écoutez, je vous lis quelque chose.
Rapidement.
Ça parce que ça pollue notre environnement politique, c'est pour ça que j'étais interpellé. Sinon, tu as quoi toi pour que je puisse avoir une haine viscérale contre toi? Je ne suis pas dans vos empatillages-là. Je ne joue pas le larbin, moi. Ce qui est sûr, on sera débarrassé de tout ça bientôt. Ça, c'est juste un message que je vous... Il y en a plein que nous recevons tout le temps. Ces appels-là, on en reçoit tout le temps. Et je vous dis, nous avons le timbre vocal du Togolais que nous connaissons. Et chaque corps que nous avons, nous connaissons aussi le timbre vocal au niveau de ces différents corps-là. Et donc, il y a certains appels, quand vous les recevez, on n'a plus besoin de vous dire d'où ça vient. Mais il faut que ça cesse.
D'accord.
Ça doit s'arrêter. Mmh. Et c'est à l'autorité de prendre toutes les dispositions pour que l'impunité cesse. Si on arrive à discipliner ces gens-là que nous avons vus dans des 4-4 en 2017, en 2018, même en 2005 et en 2015... Je pense qu'on aura trouvé une solution pour ce problème.
Ok, merci beaucoup. Je pense que nous allons en arrêter là hein, par rapport au débat et donner aussi la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent à rentrer en ligne et participer à ce débat avec nous. Nous allons leur donner la parole, mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Le plaisir pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
No. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse. Vous connaissez le principe. Nous vous donnons la parole pour que vous interveniez aussi sur les sujets débattus ici au Club de la Presse. Maintenant, nous nous ouvrons à vous. Appelez le 90 86 35 35. Premier auditeur. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, Pascal.
Comment vous allez?
Ça va.
Votre nom, c'est... Oui, bonjour. Votre nom, c'est...
C'est Lazare Adjaralamaito de Doulassam.
Lazare de Doulassam. Adjaralamaito. Allez-y.
Oui, moi, j'aimerais aborder le sujet de santé. Quand on parle de crise cardiaque, on parle du cœur. J'aimerais poser la question de savoir... Pardon, Basile est là.
Oui, Basile est là. Allez-y.
Qu'est-ce qui cause la maladie qu'on appelle gros cœur? Ou bien qu'est-ce qui fait que le cœur est petit, après il devient gros? Et j'aimerais demander savoir aussi, est-ce qu'il y a un traitement? Si oui, après le traitement, est-ce que le cœur va se rétrécir encore ou bien ça reste comme ça?
D'accord. Lazare, merci. C'est vrai que Basile n'est pas un spécialiste de la question, mais je vais lui donner la parole dans quelques instants. Il va répondre. 90 86 35 35, c'est sur ce numéro que vous pouvez nous appeler également. 91 36 63 75, deux numéros.
Allô?
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 Oui, bonjour.
Bonjour.
Comment vous allez?
Bien.
Votre nom, c'est?
Bertrand.
Pardon?
Bertrand.
Bertrand, vous nous appelez de quel quartier?
Ben,
allez-y.
C'est pour intervenir par rapport à ce qu'on appelle les groupes de défense. J'avoue que c'est en 2017 ou 2018. Je crois que c'est, si je ne me trompe pas, le président de la République qui lui-même les a une fois nommés comme ça. Et j'avoue que vraiment le jour, moi j'ai écouté ça. Je me suis dit vraiment, on est foutu au Togo. Si un président de la République en fonction déclare sur des points que vraiment il y a des groupes de taux de défense, vraiment, depuis là, et puis vous-même les journalistes, dans tout le journal, il y a revenu sur ça. Normalement, c'est un truc à dénoncer. Il y a de la plus haute autorité d'un pays. Groupe de taux de défense. Et depuis là, moi, je me demande ce qu'il veut mettre dans ça. Un président de la République dit ça. Et voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Peut-être que nous tous, nous allons former dans nos quartiers ce groupe de taux de défense et on va voir là où il y a le Togo.
Non, on ne va pas y arriver là. Et quand pas même, non, Bertrand, je pense quand même que nous, en tant que citoyens, on a justement ce devoir hein, de d'assurer la cohésion sociale, c'est très important. 90, 86, 35, 35, allô?
Allô?
Oui, bonjour.
C'est Alain de Kodomo.
Alain, comment vous allez?
Très bien.
D'accord, allez-y.
Je salue pour le plateau.
Oui, le plateau aussi vous salue.
Oui. Ce que moi, je vais relever, c'est-à-dire certains journalistes et tous des comportements comme ça. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien.
Vous parlez de quel comportement?
Des êtres humains, hein. On ne peut pas battre quelqu'un sans rien faire comme ça. Et puis, les gens vont soutenir ça. Moi, je suis désolé. Merci.
Merci beaucoup, Alain. Je sais que sur le plateau, tout le monde a condamné quand même ce fait. Et je ne sais pas si déjà sur ce plateau, il y a quelqu'un qui a épaulé cela, comme Alain le dit. Tout de suite, 90, 86, 35, 35. Allô?
Allô? Allô, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien, c'est M. Komla depuis Agoué.
Ah, M. Komla.
Oui.
Allez-y.
Non, moi je voulais parler, je voulais demander, pour notre histoire de riz là, c'est où nous en sommes. Le riz de verté au niveau de l'Ebatito en Okola.
Oui.
Ah, ça cause de beaucoup, beaucoup de soucis dans mon quartier là-bas, Agoué. Parce qu'il y a une dame là, depuis là, les gens ne veulent plus acheter le riz, ils sont à Imolou, parce que soit disant que le riz de, qu'on a déversé là-bas, là, qu'elle prend pour préparer le riz. Bon, le gouvernement dit quoi? Parce que, selon les dires, on a dit que le riz, là, même les animaux ne peuvent pas manger. Mais, c'est telle décision le gouvernement a prise. Même nos amis qui sont à l'étranger, nos frères, ils nous appellent, ils se moquent de nous. Donc, ce qui veut dire que c'est qu'on ne mange pas, Nous, on est en train de manger au Togo. Ce n'est pas bien. Mais le gouvernement même dit quoi par rapport à ça? Ah bon. Depuis là, ça fait une semaine. C'est quelle décision on a pris?
D'accord.
Par rapport à ça.
Je pense que le gouvernement est interpellé. Et donc là, 90-86-35-35, allô?
Allô, bonjour à vous.
Bonjour, monsieur Gado.
Oui.
Comment vous allez?
Mais je voulais parler à propos de l'agression du député là.
Oui.
Jusqu'aujourd'hui, là, même le partout tourne autour de l'eau, on ne dit jamais à qui profite le crime. C'est sûr que le crime ne profite pas à Macky Sall quand même, hein. Expliquez-nous à qui profite le crime. Merci, bonjour. Mais si ce n'est pas la première fois, ok.
90-86-35-35, allô?
Allô, bonjour, Canal FM.
Bonjour, Nestor, comment vous allez?
Oui, je vais bien.
Allez-y.
Oui, je vous ai suivi en faisant les allers-retours, mais je tiens à intervenir par rapport au classement. Le journaliste a dit c'est la balade des gens heureux. En plus, il s'agit de la Banque mondiale, des institutions changeantes que le président a dénoncé lors de la réunion au niveau de l'ONU. En plus, ce sont des gens qui prennent des billets. Classe business, comme l'a dénoncé un député de la CDAO, et qui font des banquets entre les gens d'une classe de la société. Donc, ces classements ne sont pas vraiment, ne montrent pas la réalité de ce que le BAPE peut dire. Merci, Canal FM.
Merci beaucoup, Nestor. Et Nestor, vous êtes le dernier auditeur pour le compte alors de cette émission. Nous allons faire un dernier tour de table. Chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Sylvestre, vous avez écouté les uns et les autres. Quelle est votre réaction?
Non, je crois que vous avez vu qu'aujourd'hui, les Togolais ne croient plus en ce gouvernement, du moins au gouvernement successif que nous avons connu. Et vous avez vu que tous ces classements ne disent rien aux Togolais. Voyez-vous, donc ça veut dire qu'il y a déjà une crise de confiance entre le gouvernement et son peuple. Et là, dans un pays, c'est extrêmement grave. Si les populations ne croient plus au gouvernement, à ceux qui se considèrent comme des mandatés, ceux qui sont là pour le peuple, vous avez vu qu'il y a véritablement des soucis à se faire. Et puis un autre est revenu sur ce qui s'est passé, il dit, si nous aussi, nous commençons à former des groupes d'autodéfense, vous voyez que ça deviendra de l'anarchie. Parce que il revient à l'État d'assurer la sécurité publique. Et donc, si l'État devient défaillant et que chaque Togolais doit maintenant avoir son groupe d'autodéfense ou son corps d'autodéfense, vous verrez là où cela peut conduire un peu la République. Donc, il faudrait véritablement que ceux qui nous gouvernent pensent à éradiquer ce fléau-là de milices, parce que nous le disons, ça devient et répétitif. On l'a connu dans le rapport donc de l'ONU en 2005. Il y a eu ce vocable milice. Vous prenez en 2012, le 15 septembre 2012 à Adéwi, ils ont agi à visa découvert. Et là, on nous a annoncé une enquête. Or, les journaux à l'époque ont publié les images. Puisqu'ils n'étaient pas cagoulés. On publie les images à la une, mais on nous dit qu'on va faire des enquêtes des gens qui sont connus et que les médias ont publié les images. On nous dit encore qu'on va faire les enquêtes. Et depuis là, rien, silence radio. Et puisque l'impunité se nourrit donc du silence, ils sont revenus donc en 2017. Ils ont commis des voies de fait. Puisque personne ne dit rien, ils sont revenus encore en 2024. Et ils vont continuer jusqu'à ce que peut-être un jour, on ne le souhaite pas, s'ils commencent à attaquer certains. Eux aussi, parce qu'ils ont mieux réfléchi, se sont préparés, vont commencer à les attaquer. Et
on ne va pas arriver quand même là. C'est
ce que nous évitons.
Donc, oui, justement, ce serait l'anarchie, tel que tu l'as dit. Ce serait de l'anarchie, du désordre. Donc, on ne va pas arriver là. Et l'essentiel, c'est tout ce que nous pouvons faire pour avoir la cohésion sociale. C'est ce qui doit être même d'ailleurs notre clé de voûte. Alors, Abbas.
Je vous à dire, mais il y a quelqu'un qui s'est interrogé par rapport à ce riz déversé. Et là, quel est le sort qui en est réservé? Je pense que aujourd'hui, les responsables sont connus. La responsabilité est située. Celui qui a déversé ce riz a dit que c'est moi. Mais il a été.
Et c'est Bébé Lomé.
Et Bébé Lomé. Et nous avons parlé de l'imprudence et de la responsabilité. Donc, j'ai déjà des pistes. S'il faut aller, parce que le gouvernement avait dit nous allons ouvrir une enquête. Et s'il faut ouvrir une enquête, on connaît déjà l'auteur. Je pense que le procureur doit prendre ses responsabilités et écouter l'auteur là, qui est allé déverser sur lui, qui pollue même l'environnement également, et qui peut même transformer les gens qui font rendre malades. Tous ceux-là qui ont pris sur lui là.
Que vous avez écouté l'auditeur, c'est-à-dire avec ses conséquences aujourd'hui.
Avec ses conséquences, un auditeur a dit ça. Peut-être que ce n'est pas la seule femme qui ne vend pas ce riz-là, parce que tout le monde a dit, nous allons boycotter le riz pendant au moins 3 mois. Oui. Vous voyez les conséquences, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la BB est responsable, la brasserie du Bénin Lomé est responsable et doit répondre de ses actes. On ne peut pas laisser passer ça, puisque nous avons demandé que le coupable soit retrouvé, et finalement le coupable s'est dénoncé.
D'accord.
Lorsqu'il s'est dénoncé, que les autorités se prennent les responsables.
D'accord,
il faut déplorer, hein. Il faut condamner tout à fait de violence au Togo. D'ailleurs, même ces actions ne font pas du bien à la politique.
Et celle-là, il semble que tu n'es pas écouté. Voilà, je pense que c'est mieux maintenant. Ou bien on donne la parole à Basile d'abord. Basile, à SL, voilà.
Oui, je disais qu'il faut condamner avec la dernière rigueur hein, tout acte de violence sur la terre de nos aïeux. Ces actes ne font d'ailleurs pas du bien à la politique du chef de l'État lui-même qui prend son bâton de pèlerin pour donner la réputation d'un pays de paix au Togo. Donc, il faut condamner vigoureusement ces actes. Et je déplore aussi l'acte de la BB qui donne des conséquences aussi fâcheuses aux pauvres populations qui végètent déjà dans la misère. J'espère que les ministères concernés vont prendre leurs responsabilités pour dédommager ces populations qui en pâtissent malheureusement par rapport à cet acte un peu irresponsable de la BB qui, rappelons-le, qu'elle n'a pas les moyens pour trouver un incinérateur pour procéder dans les normes pour la destruction de ce riz-là.
Merci Estelle.
De déverser des riz comme ça sur des territoires à la portée des pauvres populations.
Merci Estelle. Merci Basile. 30 secondes.
Oui, il faudrait que des gens travaillent pour ce pays-là. Hein. Si l'État met à ta disposition un véhicule, un chauffeur, hein, les moyens, je pense qu'il faut être à la hauteur. Il faut que les populations sentent qu'il y a un responsable.
D'accord.
Et de celui-là qui a...
Oui, il parlait de gros cœur.
Il parlait de gros cœur. Nous, on reçoit chaque temps de ces appels-là. Les gens viennent, on les oriente vers les spécialistes. Et on met à leur disposition ces structures.
D'accord. Le mieux, c'est qu'il vous contacte. Justement, qu'il vous contacte et vous allez lui donner l'indication possible. Alors, Rodit, nous sommes à la fin de cette émission.
On n'a plus besoin de démontrer aux Togolais qu'il y a une rupture de confiance entre l'exécutif et le peuple. Lorsqu'une boisson est trop vieille, on ne va pas s'amuser à la boire tout le temps jusqu'à la lit. Les Togolais doivent savoir ce qu'il reste à faire parce que c'est notre destin à tous qui est en jeu. Et nous devons chacun prendre ses responsabilités.
D'accord. Merci beaucoup, Rodrigue, d'être passé alors dans cette émission, Rodrigue Ayego. Merci d'être passé alors dans cette émission. Merci à tous ceux qui nous avaient suivis. Sylvestre, merci. Basile, merci également à vous d'être passé dans cette émission. Estelle Koudzonou, merci d'être passé dans cette émission. Basile Isaka, merci d'être passé alors dans cette émission. Alors, merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous qui nous avez appelés aussi, merci à vous. Tout le monde à TV, merci à toi. Au niveau de la technique, Gérald Akoutia a assuré la mise en ligne de cette émission. Je vous retrouve demain jeudi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.